L'aire d'autoroute de Lozay, à travers son jardin de sculptures romanes, nous propose un voyage à la découverte de l'art roman en Saintonge. Fait de monstres et de dragons, de musiciens et d'acrobates, tour à tour porteurs de morale ou faisant preuve d'une créativité débridée, l'art roman est particulièrement bien représenté en Saintonge. Voilà l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette folie du Moyen-Âge.
Ce qu'on appelle l'art roman s'est développé entre le Xe et le XIIe siècle. Il est avant tout l'expression architecturale d'une vision chrétienne de l'homme et de l'univers. J'imagine que le contexte de l'époque pourrait nous éclairer sur les paradoxes de cet art, à la fois drôle et cruel.
Eh bien, la société est alors en pleine mutation. Elle vient de traverser une époque assez barbare, la chute de l'Empire romain ayant mis un terme à la Pax Romana. La féodalité s'organise et se hiérarchise, tout en connaissant encore de nombreuses violences. L'Église chrétienne joue alors un rôle modérateur et impose la paix de Dieu en créant des ordres, des églises, des monastères. De cette domination toute puissante naît une nouvelle sécurité. L'Europe s'enrichit et connaît une explosion démographique sans précédent.
L'art roman naît donc dans une période de prospérité.
Pierre, imagine que pratiquement toutes les églises ont été reconstruites à cette époque, sans compter une quantité de nouveaux édifices. Un moine écrivait que le monde revêt alors une robe blanche d'église. Si l'enthousiasme des hommes a joué un grand rôle, il a aussi fallu de grandes richesses.
On dit parfois de l'architecture des églises romanes qu'elle est sobre, voire austère, en contraste avec les sculptures folles, très créatives.
Oh, mais cette apparente sobriété des églises est essentiellement due aux techniques de l'époque. Et il faut aussi s'imaginer qu'elles étaient alors richement décorées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec le temps, elles ont connu des dégradations, avec l'érosion provoquée par les vents marins. Et avec les hommes, elles ont connu le pillage, la destruction.
Une des caractéristiques des églises de Saintonge, c'est leur taille modeste, leur plan simple et l'utilisation presque systématique de la façade tripartite avec ce portail central. Quant aux sculptures, le plus souvent abstraites ou inspirées de la vie quotidienne, elles s'éloignent souvent des thématiques religieuses. La sculpture romane est prétexte à enseignement, d'où le message moralisateur très répandu. En général, la nef est unique, sans bas-côté, et l'église est dotée d'un large transept qui lui donne sa forme de croix latine. Mais on peut se demander pourquoi la Saintonge abrite un patrimoine d'une telle richesse.
La plupart des églises romanes sont des étapes sur les chemins de pèlerinage. C'est l'abbé de Cluny, souverain de tous les monastères, qui organise le plus important, Saint-Jacques de Compostelle. Ces chemins s'appuient sur l'existence de voies romaines et sur le réseau des églises qui permet d'offrir une route sûre aux voyageurs. L'un d'eux, le Grand Chemin, traverse la Saintonge et il est particulièrement apprécié. Le relief est peu accentué, le climat est doux.
Par ailleurs, la région connaît une grande prospérité. Elle développe très tôt le commerce du sel. On dit qu'elle est le grenier à sel de l'Europe. Mais aussi la culture et le commerce du vin, puisque le climat permet de belles vendanges. L'Église tire de ses ressources une grande puissance économique.
Pour visiter et découvrir les richesses de cet art, le jardin de sculpture romane de Lozay propose une visite récréative qui s'articule autour de plusieurs espaces.
Un espace didactique propose les clés pour comprendre l'art roman au gré d'un parcours d'initiation. Surtout, il met à portée d'œil de véritables livres de pierre. Plusieurs jardins thématiques jalonnent la visite. Et au final, une carte de la Saintonge propose de nombreux itinéraires de découverte.
Le jardin de sculpture romane de Lozay propose une quantité de reproductions fidèles de sculptures, mais aussi des répliques à l'échelle d'architecture monumentale, la lanterne des morts de Feniou, de 15 mètres de haut, le chevet de l'église Saint-Pierre d'Aulnay de Saintonge et la façade de l'église Saint-Pierre-d'Échebrune, environ 13 mètres de haut, 10 mètres de large.
Ces reproductions, supervisées par l'architecte en chef des monuments historiques, ont été très minutieuses et réalisées le plus fidèlement possible aux originaux. La lanterne de Feniou est constituée de 11 fuseaux de colonnes, aucun ne faisant tout à fait la même hauteur. Et bien sûr, le maître tailleur a mesuré chacun d'entre eux, allant jusqu'à noter l'épaisseur des joints. Même les défauts dans la taille des pierres ont été pris en compte.
La pierre utilisée pour la reproduction de la lanterne, si elle n'est pas identique à celle de l'original, s'en rapproche beaucoup. Ce sont tout de même 110 tonnes de pierres qui ont été nécessaires et pratiquement 6 mois de travail.
Quant à la reproduction de la façade des Chebrunes, faite semble-t-il de la même pierre que l'église originale, elle va nécessiter que chacune des 2000 pierres qui la composent soit dessinée puis sculptée une à une. Des fondations à la pose de la dernière pierre, plus d'un an de travail aura été nécessaire.